Vous écoutez Radio Électron Libre. Aujourd'hui, c'est une journée votation et nous sommes en direct avec Vincent Vermeil.
Voilà, de retour au Via Valentino à Lausanne pour le résultat définitif de ces votations. Alors ça se joue vraiment à un cheveu, à 20 000 voix près. C'est assez incroyable, mais le oui passe. Alors j'ai en face de moi Michèle Caillé, présidente du mouvement fédératif Roman. Michèle, quelle est ta première réaction à ce résultat?
Écoute, forcément déçu parce qu'on avait quand même espoir que ça passe, surtout lorsqu'on a vu vers midi, même jusqu'à 2h de l'après-midi, où le non l'emportait, certes pas de large majorité, mais quand même il y avait 52%, donc on s'est dit ça va peut-être tenir le coup et on va peut-être y arriver. De toute façon, ça se joue mais vraiment à un cheveu. Je crois que la différence de voix, est-ce que tu peux nous la redonner, parce que je l'ai pas en mémoire, mais c'est quoi, c'est de l'ordre de 19 000 voix, un truc comme ça?
Oui, environ 20 000 voix.
Ouais.
Bon. Donc c'est vraiment rien.
C'est absolument rien.
C'est un cheveu, quoi, dans un mouchoir de poche.
C'est un cheveu, malheureusement, pas du bon côté. Ouais. On va dire ça comme
ça. Mais il y a quand même des choses qui m'interrogent, moi, quand je regarde ces résultats. C'est déjà une espèce de disparité entre certaines petites communes où il y a des communes qui ont été dépouillées. J'ai vu ça, j'étais très étonné. Des régions où les gens se côtoient au quotidien, d'une commune à une autre, et on a des différences assez incroyables. Vous avez une commune qui a voté non à 60% ou 58%, et puis la commune d'à côté a voté oui à 60% aussi.
Alors c'est complètement fou. Et puis tu as la même chose sur le canton de Vaud, où tu as deux communes l'une à côté de l'autre, une qui vote oui à presque 60% et puis celle d'à côté qui vote non à 80%. Et c'est des, comme tu dis très justement, des communes qui se côtoient. Donc on se demande que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des communes qui ont reçu qui ont été plus atteintes par les arguments du non, et puis de celle d'à côté, elle n'a pas été touchée, enfin je sais pas. C'est vraiment extrêmement bizarre.
Ouais. Ça interroge.
Et puis bon, ça interroge d'autant plus qu'on a vraiment à l'arrivée 20 000 voix de différence. Ouais.
Alors, il y a aussi une autre interrogation. Après, derrière, le dépouillement, normalement, on a des urnes qui sont scellées, etc. Et puis, je découvre au fur et à mesure des votations que certaines communes, en fait, comptabilisent les résultats de votation avant le jour du dépouillement. Donc avant, les décomptes ont été faits la semaine passée ou la semaine d'avant. Ça m'interroge aussi parce que c'est la porte ouverte, notamment par le vote par correspondance, c'est la porte ouverte à n'importe quelle manipulation. Il suffit que des gens mal intentionnés, je dis pas que c'est le cas, mais ça peut être quelque chose. On a vu à Vernier où il y a eu des problèmes de signatures falsifiées, de documents falsifiés. Au début, ils disaient tout va bien. Et puis voilà. Alors moi, je sais pas comment ça se passe. Je suis pas dans le comité d'initiative pour ça, mais je serai les responsables du comité. Je demanderai à ce qu'il y ait un décompte commune par commune, de manière indépendante, qui se passe, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment étonnant la disparité qu'il y a d'une commune à une autre, donc de quelques kilomètres. Je parle pas je regardais la commune de Salavo, puis la commune de Chavray juste à côté. C'est étonnant. Il y a des différences comme ça, alors que je connais bien l'endroit, le lieu. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Voilà.
Effectivement, c'est très curieux. Et puis le fait qu'il y ait si peu de différence de voix nécessiterait presque un recomptage, justement, parce que quand on a 100 000 voix de différence, ok, il y a pas photo. Mais là, 20 000, c'est vraiment très très peu. Ça a mis très longtemps, les résultats ont mis très longtemps à arriver. Ça, c'est aussi étonnant dans la mesure où le premier objet fédéral sur la taxe sur la valeur locative à midi et quart, on avait déjà les résultats. Ouais. Alors d'accord, je suis d'accord que vu que l'écart était beaucoup plus grand, les projections ont pu être faites, mais on a eu très vite le résultat. Alors là, on voit que ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ils ont annoncé ce résultat, mais est-ce que tout a été compté? C'est même pas sûr que
alors,
tout soit absolument
donné,
dépouillé.
Les chiffres qu'on a donnés proviennent, que j'ai donnés à l'antenne là, proviennent du site de l'administration fédérale.
Bon, donc en principe, on doit pouvoir leur faire confiance.
Voilà, donc j'ai pas été voir sur le site du Temps ou de 24 heures, non, j'ai été directement voir sur le site de l'administration l'élection fédérale. Mais il y a aussi le taux de participation qui est impressionnant. C'est, il est à 49,55%.
Oui.
Donc ça fait, pour vous imaginer un peu, pour que les gens imaginent un peu, ça fait quand même plus de 2,5 millions de personnes, un peu plus de 2,5 millions de personnes qui ont été votées.
Alors, alors ça, je dirais que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait autant de personnes qui soient allées voter. Parce qu'on a pu constater que les dernières années, c'est pas très prisé, les gens vont plus, s'intéressent plus du tout à la chose politique, ils vont plus voter. Donc, là, on peut au moins être content, c'est que les Suisses ont repris un peu les rênes en se disant, ben voilà, là, cette fois, on va quand même se déterminer. Et puis, il faut quand même dire une chose, c'est que les sondages annonçaient une victoire du oui relativement retentissante. Encore hier et avant-hier, ils disaient, oui, non, mais ça va passer très facilement. Et puis, on se rend compte que non, c'est pas du tout le cas. Donc là, on peut dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, vu la différence de pourcentage qui est vraiment même pas 1%, ça signifie que la population est extrêmement partagée sur ce sujet. Donc, j'espère que...
Il va y avoir un respect de ceux qui
exactement,
ont voté non.
Parce que là, on est vraiment... On est à un poil, hein, vraiment.
Ah oui, c'est, mais 20 000 voix, c'est rien. C'est rien par rapport à... Je rappelle, hein, 2 millions, donc 2 millions et plus de 2 millions et demi de votants. Donc, c'est 20 000 voix, c'est rien du tout. Donc, il faudrait qu'il y ait, à mon avis, hein, alors encore une fois, je ne suis pas à Berne sous la coupole fédérale, mais je serais notamment les responsables politiques ou les parlementaires de différents partis qui ont par exemple l'UDC qui a changé hein, son fusil d'épaule quelques semaines avant la journée de votation, quelques mois. Bon, les bulletins étaient déjà imprimés, c'était marqué UDC qui disait oui, mais ils ont complètement changé grâce aux jeunes UDC qui au départ, eux, ont dit directement qu'ils ne voulaient pas le ID. Maintenant, est-ce que les parlementaires UDC à Berne auront les coucougnettes, entre guillemets, pour demander peut-être un décompte, eux?
Alors, je pense que ça serait bien que l'UDC, effectivement, s'empare de la question et demande un recomptage, donc fasse un recours pour demander
ils
un recomptage.
Ils ont la possibilité, là je m'adresse à la juriste que tu es, de demander...
On peut toujours demander. On peut toujours demander, bon, faut arriver avec des arguments solides, mais bon, je pense que là, il y en a quand même des arguments.
Alors, il y a une autre chose aussi qui inquiète par rapport à ça, c'est qu'une entreprise d'État, qui appartient à la Confédération, qui s'appelle Swisscom, a aligné en faveur du oui 30 000 francs. Là aussi, ben, on va se dire, oui, mais 30 000 francs, vous comprenez, c'est pas grand chose comme sous-sous, non. Oui, mais 30 000 francs, ça peut être ce qui a permis, alors qu'ils auraient pas eu le droit de le faire, hein, puisqu'ils sont partie prenante, c'est peut-être qui a permis, justement, cette différence de 20 000 voix.
Alors bon, on pourra jamais le savoir, ouais. mais ça c'est clair que c'est un petit peu, on fait des supputations,
oui,
mais de toute façon,
je joue les avocats du diable, mais
tu as raison, mais de toute façon, c'est absolument scandaleux, et ça on peut le dire, scandaleux que Swisscom ait investi Swisscom, tout le monde le connaît, c'est ça que j'ai envie de dire, il n'y a pas que Swisscom, effectivement, mais tout le monde connaît Swisscom, donc, et tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont leur abonnement chez Swisscom, alors franchement, je pense qu'en tout cas, tous les opposants à l'identité numérique, s'ils sont encore chez Swisscom. Je suis encore chez Swisscom, mais changez votre abonnement parce que c'est vraiment scandaleux.
Attends, tu appelles directement le boycott de Swisscom.
Exactement, parce que vraiment là, c'est vraiment, mais c'est extrêmement choquant quand on sait que ça appartient à 51% à la Confédération. Non, mais c'est extraordinaire quand même. Et puis qui est-ce qui finance la Confédération? C'est nos impôts. Alors même quand vous êtes, il y a 50% de la population qui n'est pas d'accord avec l'identité numérique, qui a financé...
Bon, messieurs, dames, annulez votre abonnement chez Swisscom, voilà.
D'autant plus que Swisscom vient de délocalisé en Lettonie, à des centaines d'employés qu'ils ont délocalisés, qui sont partis directement de Suisse pour être dans des pays étrangers. Encore une fois, ça ne répond pas aux intérêts financiers et c'est ce qui dirige la manœuvre de façon systématique. Et quand on sait qu'ils sont partenaires d'économie suisse, que c'est une constellation de sociétés privées qui récoltent les bénéfices, c'est une monstruosité. C'est littéralement revenir à dire que l'État a délégué des fonctions étatiques chez des privés de façon systématique et ça devrait être anticonstitutionnel. On en revient toujours au même point. Ce sont les bases constitutionnelles et légales qui déterminent le succès d'un pays comme la Suisse. Et il est temps de les réécrire.
Mais c'est incroyable. Moi, j'hallucine. 20 000 voix, 2 millions, plus de 2 millions et demi de votants. Swisscom qui met les pieds dans le plat en sponsorisant. Mais n'empêche que ce serait passé à la trappe si des gens comme toi, Pascal, n'avaient pas un peu, on va dire, fouillé l'arrière-train de tout ce pognon qui circule et qui, mais oui.
Ouais. Bah, c'est de l'investigation. Et on est sur le point de publier, Michel, je te le dis aussi, on est sur le point de publier nos sources et de commencer à travailler.
Alors, ça, j'y tiens. Ça, j'y tiens parce que, on parle de beaucoup de choses à la radio. Moi, j'essaie de pas être complotiste dans le sens où de pas dire des choses sans avoir les sources directes. Je l'ai fait avec la convention de 1291 qui est toujours en vigueur. Je vais peut-être faire sursauter, Michel Caillé parce que je suis sûr qu'elle a pas écouté l'émission, mais le texte constitutionnel de 1291 est toujours actuellement en vigueur. Il n'a jamais été,
abrogé
par rotation populaire. Jamais. Et il a servi, après 1291, jusque dans les années 1700, il a servi pour chaque, comment dire ça, nouveau pacte, en rajoutant des cantons, en rajoutant des trucs. D'accord? Et comme j'ai fait un peu de latin quand j'étais à l'école, je me suis permis d'aller voir la grosse photo en haute définition du texte, et j'ai lu ce texte. Alors c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des mots, c'est un peu décousu, on est d'accord. Il y a des phrases qui sont un peu décousues. Mais la dernière phrase est très poignante, elle dit que ce texte dure à perpétuité, la volonté de ceux qui ont écrit ce texte dure à perpétuité si Dieu le veut. Donc, ce texte est toujours d'actualité. Et quand je me suis amusé avec l'intelligence artificielle à soumettre ça à Grok, et Grok a reconnu qu'effectivement, dans l'histoire, il a été mis de côté, ce texte, soi-disant que c'était un mythe, mais qu'effectivement, ce texte a une valeur constitutionnelle, juridique et contraignante. Et que ce qui en est décrit sur les sites officiels, notamment le musée qui accueille ce document à Auschwitz, eh bien, est pas très juste. On parle d'un mythe fondateur, ce qui est complètement faux. Et j'ai refait l'histoire, si on vous le retrouve en podcast dans l'émission Info Intox XXL, j'ai refait il y a 3 semaines maintenant l'histoire justement de ce pacte de 1291. Et historiquement, je suis remonté depuis le début et j'ai pris date par date, donc on peut vérifier ce que je dis, je ne l'ai pas inventé. J'ai repris date par date les différentes interventions qu'il y a eu en 1315, en 1345, etc. Pendant 500 ans, ce texte avec les Landgemeinde a été la base de la Suisse actuelle. Et tout à coup, à partir de 1700 et quelques, Napoléon est arrivé à semer la zizanie. Et depuis 200 ans maintenant, depuis 1800, depuis la nouvelle, soi-disant moderne, la constitution moderne, eh bien, on assiste à des trucs qui sont très louches. Très, très louches, mais très bizarres. Et moi, je dis maintenant, ça n'engage que moi, mais je dis personnellement que je trouve très louche le résultat de ces votations concernant l'EID aujourd'hui. Je suis pas complotiste, je suis simplement réaliste dans le sens où 20 000 voix d'écart, des incohérences au niveau de certaines positions de certaines communes sur le oui et le non, des communes qui sont côte à côte et qui ont une différence de pourcentage qui est pratiquement de 100%. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que vous prenez une commune, elle a voté 50% ou 55% non, la commune d'à côté a voté 55% oui.
Et c'est assez aberrant. Dans une même région.
Dans une même région où les gens se côtoient. Voilà. Donc, il y a les gens vont au restaurant, vont au bistrot, les gamins vont dans les mêmes écoles ou pas loin, hein, puisqu'on a des, notamment, il y a des trucs intercantonaux, des collèges intercantonaux, etc. C'est quand même bizarre. Ça interroge.
Ah, pour le moins, ça interroge, oui.
Alors, je suis pas du tout complotiste, mais j'aimerais que les gens entendent qu'il faudrait pousser nos amis sous la coupole fédérale à Berne, hein, qu'ils soient PES, qu'ils soient UDC, qu'ils soient maintenant. Moi, j'aimerais que les choses, elles soient claires. Et là, il me semble que c'est pas très clair. Déjà, les délais d'attente, énormes. Bientôt 3 heures.
Est-ce qu'on a déjà vu un délai d'attente?
Alors, il y a eu un truc avec le Covid où il y a eu des choses très surprenantes, notamment au niveau de, où on est passé à une inversion de pourcentage.
Oui, alors ça, je me souviens.
Et non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais pour rigoler parce qu'il faut quand même rire, même si c'est pas la fête, parce qu'on n'a pas gagné. Hein. Mais je vais repasser pour nos auditeurs ce petit jingle de la marmotte. Mais vous n'allez pas l'entendre, vous, parce que vous n'avez pas le casque sur les oreilles.
Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
Mais bien sûr.
Où enfreint les libertés du peuple, nos politiques bienveillants sauront revenir en arrière, n'est-ce pas?
Alors, je pense que se remettre en question, ce n'est pas leur cas.
Non.
On a vu la déconnexion dans les débats télévisés aujourd'hui. La déconnexion, on en a parlé avant, Pascal, hein, mais peut-être qu'on aura pas à avoir l'avis de Michel Caillé là-dessus, parce qu'elle a suivi aussi ça en direct à la télé. Moi, j'ai été choqué par la déconnexion des intervenants par rapport à la réalité.
Ah, mais ils sont complètement hors sol. Les explications qui ont été données, mais on dit, mais est-ce qu'ils ont compris quelque chose à l'identité numérique ? Vraisemblablement, rien. C'est pas possible de raconter des balivernes pareilles. On se trouve avec des gens qui disent, mais bon, c'est parce que les gens, ils ont peur du numérique. Non, je ne crois pas que c'est ça. Je crois que le problème, c'est que les gens comprennent, et en tout cas, il y a une bonne partie qui a compris que c'était une atteinte directe à leurs droits fondamentaux et à leur liberté. Je crois que c'est surtout ça qu'ils ont compris. Mais ça, on nous l'occulte.
C'était choquant aussi, c'est de voir qu'il y avait le seul, on va dire, contradicteur possible, c'était un monsieur du Parti Pirate.
Oui.
Mais pourquoi on n'a pas invité, je ne sais pas, Nicolas Derimoldi ou Michel Caillé à venir? C'est parce que partie prenante, hein, le MFR, dans cette campagne. Alors pourquoi on ne les a pas invités à venir causer? Il y a quand même un manque d'impartialité.
Il y a toujours deux poids, deux mesures.
Oui, mais c'est pas possible. C'est un service public. Et c'est noté dans la Constitution. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est noté dans la Constitution qu'il doit être impartial.
Ouais. Bah non.
Et là, il n'y avait pas d'impartialité.
Ah,
on a bien vu quand ils ont présenté la dame là, qui travaillait au HEC, là, ou je ne sais pas quoi, qui a parlé de manière positive. Oui, oui. Alors, il a été présenté pendant 30 secondes par la speakerine. Et puis, tout de suite après, ils ont présenté le monsieur du Parti Pirate. Alors, 5 secondes pour le monsieur du Parti Pirate. Mais par contre, 30 secondes pour la dame du... Mais c'est quoi cette histoire? Ah, le CV n'était peut-être pas le même. Non, mais à un moment donné...
Bon, on sait très bien que la RTS reçoit des contributions de la part de la Confédération. Donc bon, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Tout simplement.
Michel, est-ce que tu aurais autre chose à envie de rajouter pour nos auditeurs de Radio Électron Libre?
J'aimerais surtout remercier toutes les personnes qui se sont dévouées, parce qu'il y en a eu quand même de nombreuses qui se sont dévouées sur le terrain, pour aller distribuer des flyers, pour aller discuter avec les gens, pour vraiment essayer de convaincre et expliquer surtout ce que c'est cette identité numérique à la population. Je les remercie franchement du fond du cœur, parce qu'ils ont fait un travail, un excellent travail. Et de manière générale, je voudrais remercier tout mon comité pour cette campagne romande qui a été vraiment une très belle campagne. On avait des beaux supports, on avait des belles personnes qui ont mis en avant ces supports. Je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une campagne, je parle au niveau fédéral bien évidemment, une campagne romande pour le fédéral, pour des votations fédérales. Je pense que c'est des dizaines d'années où il n'y en a pas eu. Ce qu'il faut aussi souligner, ça me paraît important que les gens comprennent bien, c'est qu'on se dit, tiens, mais comment ça se fait qu'on ne les voit pas plus, ces gens qui font des campagnes? Comment se fait-il? Il y a 30 ans, on voyait tout le monde. Il y a même encore 5 ans, on voyait tout le monde. Pourquoi? Parce que c'était les partis politiques qui s'occupaient des initiatives ou des référendums. Et les partis politiques ont des moyens financiers. Ouais. Donc, et ils sont diffusés par les médias de grand chemin. Hein, ça, c'est la grande différence, parce que même l'UDC, qui est peut-être un petit peu plus, un peu plus ostracisé, mais enfin, quand même, régulièrement, ils passent à la télévision,
ils ont des moyens.
Depuis 5 ans, depuis la COVID, phase Covid, ouais. Eh bien, ce sont des mouvements citoyens avec des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Toujours le nerf de la guerre. C'est pour ça, quand on a parlé tout à l'heure des 30 000 francs de Swisscom, on dit ouais, c'est peanuts, c'est 30 000 francs. Le MFR aurait bien aimé recevoir ces 30 000 francs, parce qu'avec ces 30 000 francs, on aurait pu se diffuser de manière beaucoup plus massive. On a déjà dépensé pas mal d'argent pour ça, on aurait pu diffuser de manière beaucoup plus massive, et en diffusant plus, avec peut-être moins d'arguments, on s'en fiche, ça, on atteint beaucoup plus de personnes. Et c'était ça qui est important, c'est d'atteindre un maximum de personnes, parce que de manière générale, depuis 5 ans, les partisans du non de ce qui se passe à la Berne fédérale ne sont simplement pas entendus. Quelle meilleure censure que de ne pas d'occulter les gens, de ne pas leur donner la parole. Et c'est exactement ça qui se passe.
Moi, j'ai plein d'idées la tête en tant que directeur de la radio et président de l'association Humanum Contactus. Je dis qu'il faut monter maintenant au créneau et monter un pôle médiatique qui ait les capacités de, en quelques mois, et c'est faisable, hein. Après, c'est une volonté financière, c'est-à-dire c'est une volonté de... L'argent peut être trouvé, je pense, assez rapidement et de manière assez, assez sûre, mais c'est une volonté financière du moment où l'argent est trouvé en quelques mois. Je le dis, hein, c'est faisable en quelques mois, en 8 mois, allez, une année, disons. Mmh. On peut inverser la vapeur et pas faire taire, j'aime pas ce terme-là, mais faire comprendre aux Suisses et même ailleurs, hein, sur la planète, qu'il y a des possibilités de faire bouger les choses et de parler de manière honnête et juste aux gens. Et pas toute la journée de lire des mensonges, des manipulations. Vous prenez le 20 minutes, on prend le 24 heures, on prend le temps, on prend la RCCR, hein, ou moi je parle de médias romans, hein, mais ils mentent. Si maintenant je prends le 20 minutes, je sors un article, soit c'est biaisé, soit c'est un mensonge, c'est une manipulation. C'est impressionnant. J'ai fait des listes entières de fichiers, donc je mets des liens que je mets dans les fichiers Word, de mensonges, d'articles mensongers, etc. Ceux qui sont les plus gros, je les dénonce à la radio. Mmh. Et en plus de ça, je découvre que si un média public ment, c'est pénal. Donc, la RTS a menti il y a environ un mois maintenant de manière factuelle. Elle savait que c'était faux ce qu'elle disait. Aucune poursuite, rien. Personne n'est poursuivi. Mmh. Comment ça se fait que c'est toi qui es juriste, Michel, comment ça se fait que cette histoire de justice à deux vitesses, où moi, par exemple, maintenant je vais dire une connerie à l'antenne, on va me coller un procès au cul, et puis, excuse-moi de la vulgarité, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Mmh. On va me coller un procès au cul, et puis je vais en avoir pour des milliers de francs de frais d'avocat, de machin, de trucs. Et puis la RTS, elle se permet de faire quelque chose qui est punissable pénalement, mais elle a rien.
J'ai envie de te dire que c'est la loi du plus fort. Donc, on parle de démocratie, mais qui peut encore penser qu'on est en démocratie en Suisse ? Malheureusement, on est dans un système, comme d'ailleurs dans le système de la grande majorité de l'Europe, un système parfaitement corrompu. On peut même aller plus loin, dire que la corruption, c'est devenu le système. Donc, bah forcément que c'est deux poids, deux mesures. Et la justice, c'est... On dit elle devrait être impartiale. En fait, la démocratie, ce serait d'avoir des pouvoirs, le pouvoir parlementaire, effectivement, qui fait les lois, c'est le législatif, le pouvoir exécutif, c'est le Conseil fédéral qui gouverne, et puis la justice. Mais la justice, il faut bien comprendre, c'est un des départements relié au Conseil fédéral. Comment veut-on que ça soit impartial?
Je ne savais pas que les juges étaient entre guillemets nommés par des partis politiques.
Tout à fait.
Moi, j'ai découvert ça, j'ai halluciné. J'ai dit, oui, mais alors attends, puis qu'ils leur reversent en plus une partie de leur salaire.
Bien sûr. Mmh.
Mais c'est hallucinant. Moi, je ne savais pas. Ouais. Et j'ai dit, mais attends, c'est quoi? Mais alors, il y a plus, la justice, c'est pas impartial. C'est pas possible d'être impartial quand tu es élu par un parti politique. Et en plus de ça, c'est du racket de la part du parti politique qui doit reverser son salaire. Mais on marche sur la tête.
Si je peux me permettre, là, on est quand même dans un débat qui est un peu législatif.
Oui.
Et certes, ça a beaucoup d'importance parce que ça permet d'apporter une donnée critique par rapport au système actuel. Mais c'est vrai malgré tout que ce débat législatif, il adresse des points très pointus et isolés d'un ensemble, d'un système qui fonctionne d'une façon qui est dysfonctionnelle. Et ce que je dis simplement, c'est que tant qu'on ne se sera pas attaqué aux fondations véritablement du système, on va en améliorer des segments. Il n'y a aucun doute.
Ouais, il faut tout remettre à plat sur la table.
Mais quelque part, oui, la mort d'un système est indispensable pour permettre sa renaissance.
J'ai l'impression des fois d'assister à la chute de l'Empire romain.
Bien sûr, et en ce sens, cette chute...
Historiquement, si on va chercher dans l'histoire, on avait les orgies, on avait des mains. Et j'ai l'impression, quand je vois ce qui se passe, hein, que je vois la street parade, quand je vois la gay pride, quand je vois, j'ai l'impression d'avoir cette décadence qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et puis la chute de l'Empire romain, ça a été ça, hein, ça a été une décadence. Ça a été progressif, mais ça a été une augmentation justement de cette jouissance extrême de la vie, parce que soi-disant ils possédaient, voilà. Et puis à un moment donné, ça s'est effondré parce que
c'est la décadence de la démocratie qui devient une tyrannie.
Oui.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Bien
sûr. Et on est en plein là-dedans. Bah, le wokisme, c'est notre décadence. Hein.
Ah ouais, non, mais bon, il faut arrêter hein, ce qui se passe dans les écoles. Bon, on pourrait en parler
oui,
pendant
oui,
des
oui,
heures.
Ça, c'est encore un autre voilà. sujet, mais alors là, il y a matière.
Michel,
hein. Mais ça va ensemble,
Michel,
hein, tout ça va ensemble.
On va se recroiser un peu plus souvent parce qu'il faut que des gens comme toi, comme Pascal, comme aussi l'autre Michel qui est à côté, Michel Berset, qui fait partie du comité aussi du MFR, interviennent et parlent et disent les choses. N'aient pas peur de parler, parce que c'est ça aussi. On a un gros problème, c'est que les gens ont peur de parler.
Beaucoup.
Moi, je reçois des témoignages de gens qui sont dans la merde en étant à l'AVS, qui payent des impôts de manière complètement folle, ou bien qui sont... Voilà. Il faut parler, il faut s'exprimer. Et puis, je le dis, on va encore en discuter avec le MFR, je vais en discuter avec Pascal, en discuter avec d'autres personnes, mais il va falloir qu'on monte cet outil, ce média indépendant, ce pôle médiatique indépendant, qui permette non seulement à Radio Électron Libre, mais à d'autres, d'avoir des locaux, de pouvoir accueillir des journalistes et de pouvoir avoir un espace de travail, d'accord, un bâtiment, un espace de travail qui leur permette de travailler correctement et d'avoir des outils de travail et de communication qui leur permettent de vraiment bosser. Parce que là, on bosse avec des bouts de ficelle, que ce soit le MFR, que ce soit toi, Pascal, hein, même si Patrick fait un super boulot derrière. Mais moi aussi, on a tous... Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train... Moi, depuis 4 ans, j'ai l'impression qu'on est en train de tout s'user dans notre petit coin, alors qu'on a des gens comme Amel Debay, par exemple, qui aussi se bat pour essayer de faire exister son journal, etc. Moi, j'ai le son, toi, tu as l'image, Pascal. Avec Amel, on pourrait encore penser avoir peut-être le papier. Donc, on aurait 3, par exemple, hein, ça, c'est une idée. Et puis, avec le MFR, on a un mouvement, on a une association derrière qui permettrait de soutenir en plus le message.
Mais tu as tout à fait raison. Un pôle médiatique est absolument indispensable si on veut...
Complètement transparent sans apport financier de banque ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire que le pôle... peut être construit, je pense, assez rapidement. Je suis complètement fou dans ce que je dis, mais je pense que c'est faisable. Après, c'est une volonté de certaines personnes. Mais je pense que c'est faisable de réunir une somme pour acquérir un lieu, par des dons donc, hein, acquérir un lieu, des terres, et commencer à développer
Il faut effectivement que le bâtiment soit propriétaire.
Le bâtiment appartient à une association.
Voilà.
Et l'association est gérée de manière complètement transparente. La comptabilité est mise en ligne. On fait une comptabilité en ligne. Les gens ont des salaires corrects. On n'a pas besoin de payer de dividendes à des actionnaires. Donc, c'est une association à but non lucratif. On développe ça comme ça. Et je suis persuadé qu'on peut développer quelque chose. On peut créer des places de travail, en plus. On peut créer des places de travail parce qu'il y a du boulot. Il y en aurait pour tout le monde. On pourrait faire bosser une dizaine de personnes. On commencerait en Suisse romande, parce qu'on est en Suisse romande, hein, voilà. Et puis après, on pourrait faire des bureaux. En Suisse allemande, au Tessin, et puis on pourrait développer vraiment un média, une télévision, ou bien soutenir des médias ou des télévisions régionales, locales, apporter des outils et apporter surtout une infrastructure et une espèce de base où ils ne sont pas perdus dans leur petit coin à essayer de produire du contenu qui est fantastique.
C'est pas le problème de la qualité, parce qu'on a une grande qualité dans les médias. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Il y a beaucoup de gens
qui
travaillent avec des petits bouts de ficelle.
Il y a des gens qui me disent, mais comment ça se fait que t'es pas sur le DAB? Quand je vois que le DAB par année pour la Suisse romande me coûte 100 000 francs si je veux être sur le DAB, mais je suis obligé de signer le contrat pour 5 ans.
D'accord, donc c'est 500 000 francs.
Donc c'est 500 000 francs, d'accord, à poser sur la table. Par contre, on ne me demande pas quelle va être ma ligne éditoriale, parce qu'il y a 2 fournisseurs en Suisse. Il y en a un, la première truc qui m'a demandé, quelle est ma ligne éditoriale? Et là, j'ai failli lui répondre, je n'ai pas répondu, mais j'ai failli lui répondre, je lui ai dit, mais vous moquez de qui? Moi, je demande, ma ligne éditoriale ne vous regarde pas. Je vous demande un accès au DAB+. Il n'y a pas à me poser une question sur ma ligne éditoriale. Vous en êtes où? L'autre fournisseur m'a simplement donné les chiffres concrets. Il m'a dit, monsieur, voilà, c'est 100 000 francs, et un contrat signé, donc 100 000 francs payables à l'avance pour l'année, voilà, et puis un contrat signé pour 5 ans. Et là, on serait sur le DAB. Déjà, on pourrait faire un petit plus. Imaginons après qu'on réactive, et là, je vais être fou, hein, on réactive la TNT.
Ah.
Ah, ils ont fait exprès de la désactiver, oui. Hein, parce que c'est pas vrai, c'est les mêmes, pratiquement les mêmes systèmes que pour le DAB, hein.
D'accord.
Sauf que là, il y a l'image. Je vulgarise beaucoup, mais c'est à peu près la même chose. Donc, on réactive la TNT, on met des émetteurs TNT et on diffuse une chaîne nationale en TNT.
Cool.
Ben oui.
Très cool.
On va se donner les moyens d'arriver à ça, mais peut-être
alors,
pas
exactement,
dans 6 mois.
Il faut se donner les moyens.
Mais on va se donner les moyens, on va se donner la logistique, c'est ce que me disait Pascal l'autre jour, il faut la logistique aussi derrière, et la réflexion et tout. Mais je crois qu'on n'est pas plus con que les autres. Quand on voit les, quand moi, je vois certaines décisions qui sont prises ou certaines personnes causées, cadres, notamment à la RTS, etc., je me pose des questions. Hein. Hypothétiquement, pour moi, c'est limite.
Il y a une chose aussi, c'est que si on doit vraiment ordonner nos priorités, et comme dit le proverbe, une personne qui a plus de 3 priorités n'en a aucune. Mmh. Et ce que je te dis simplement, c'est qu'on doit mettre dans un ordre prioritaire un certain nombre de choses.
Oui.
Je suis sûr que le fait de toucher...
C'est bien d'en parler aux auditeurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut montrer aux auditeurs que non seulement il y a des initiatives,
ouais,
comme l'initiative justement non contre le ID, etc., qui a été mise en place, mais c'est des initiatives, à un moment donné, on constate qu'on a un problème de communication.
De diffusion de l'information.
Donc, à un moment donné, eh ben, OK, on a remarqué maintenant qu'on avait ce problème-là depuis 4 ans, depuis le Covid, 5 ans. Alors maintenant, on s'attaque, on prend les choses de manière... Moi, j'ai vu ça par rapport, et oui, c'est pour ça que l'idée m'est venue, parce que j'ai vu ce qu'a fait Elon Musk avec Twitter. Il a racheté Twitter parce que justement, il y avait ce problème-là. Mmh. Trump a créé True Social parce qu'il y avait justement ce problème-là. Ouais. Et à partir de ce moment-là, les choses aux États-Unis... Elles ont fait un bond en avant.
Ouais. Bien sûr.
Alors, bien sûr. Je me dis, OK, on n'a pas 380 millions d'habitants, ou 360 millions d'habitants comme aux États-Unis. Ouais. Mais pourquoi pas utiliser, avoir la même réflexion.
Vincent, ça fait partie des choses qu'on doit mettre dans nos priorités.
Ouais.
C'est une évidence. Mais une chose après l'autre. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que mettre en place quelque chose qui peut être attaqué par les structures légales et constitutionnelles actuelles n'aura pas beaucoup de chance dès qu'on va nuire à des intérêts financiers de se maintenir. Ce que je veux dire par là, c'est que les structures qui nous ont privés de nos libertés ne peuvent pas nous les rendre. Et tant qu'on ne se sera pas donné les garde-fous en amont, eh bien, on va dépenser beaucoup d'énergie en utilisant un outil légal qui va nous voler ce qu'on va remettre en place. Ce que je dis simplement, c'est que on doit impérativement, best choice is to have no choice, le meilleur choix est de ne pas en avoir, imposer des fondamentaux légaux et constitutionnels qui nous redonnent cette souveraineté.
Le problème qu'il y a, c'est que pour faire ça, tu dois faire, par exemple, pour réviser la constitution en Suisse,
tu dois
lancer une initiative.
Non, mais oublie l'initiative en Suisse.
Mais tu veux faire comment pour faire changer les choses? C'est ça le problème. Parce que tu vas pas pouvoir, à moins d'aller te présenter aux élections l'année prochaine, dans 2 ans à Berne.
Tu peux rien faire non plus. Ça sert à rien. Alors là, ça sert à rien.
Donc, moi, je propose une autre approche mais pour changer, il faut annoncer ça aux gens.
Oui, mais c'est ce qu'on fait.
Alors, on le fait là, si on arrive à le faire à une échelle plus grande, d'accord? Si on arrive à le faire à une échelle plus grande dans les 3 langues nationales, 4, il y en a, mais en romanche. Bon, oui, j'ai vu qu'il y avait des butins de vente en romanche maintenant.
Oui.
Bonjour, on est au cinéma hollywoodien. Hein. Non, j'ai rien contre les romanches, mais à un moment donné, mais c'est une langue officielle, il faut respecter. Le truc est que on devrait maintenant se dire, OK, on a essayé ça, on a essayé pour la loi Covid, on s'est battu, pour différents trucs, on s'est battu, on a vu qu'on a le problème de la communication avec les gens.
Oui.
Donner l'info. Et puis on a vu aussi que les gens, les médias traditionnels, entre guillemets, si j'appelle ça les médias, les propagandistes traditionnels, ne parlent pas de ce qui se passe à travers le monde. Mmh. D'accord? Alors moi, je suis pas journaliste, j'ai pas les compétences. Mais maintenant, imagine-toi monter une structure où t'as des journalistes intègres qui vont bosser, parce qu'il y en a qui cherchent du boulot, hein.
Bien sûr.
Des journalistes intègres qui vont bosser, qui vont pondre des papiers. D'accord? Qui vont aller se renseigner, qui vont vraiment avoir faire leur boulot de journaliste, d'accord?
Ouais.
Et puis qui vont transmettre aux gens ce qui se passe.
Ouais.
Ce qui se passe réellement à travers le monde. On est dans un schéma là, d'accord? Où la RTS pourra pas venir dire, ah non, mais vous racontez des bêtises, vous racontez des conneries. On a des gens compétents qui travaillent, qui transmettent une information.
Sourcé.
Et puis en plus de ça, les transmettre à tout le monde. Moi, je me suis renseigné hein, au niveau justement des licences, des patentes et tout. Parce que c'est bien joli de dire on doit changer le cadre légal. Moi, je suis parfaitement d'accord. Mais le problème, c'est que les gens ne le savent pas.
Mais c'est toujours le même problème.
Donc, on va essayer, pour moi, personnellement, moi, je vais me battre, hein, pour essayer d'avoir un média qui tienne la route en Suisse, d'accord? Et puis, qui soit en Suisse allemande, en Suisse italienne, etc., qu'on fédère un maximum le mouvement fédératif roman, peut être le mouvement aussi fédératif roman ou tessinois. D'accord, il peut, voilà, mais qu'on serve d'exemple de base et puis qu'après, ben, ce soit parsemé dans toute la Suisse et puis que les gens soient réellement informés sur ce qui se passe et que le média qu'on crée soit capable de dénoncer les mensonges en direct ou pas, hein, mais de dénoncer les mensonges qui sont diffusés par les autres. Parce que c'est ça aussi.
Ouais.
Parce qu'on a des problématiques comme les résultats de cette votation d'aujourd'hui où tu as 20 000 voix d'écart. Moi, je dis ça pue. Maintenant, c'est mon avis personnel, mais moi je dis ça pue la magouille. C'est pas très normal tout ça. C'est pas très normal tout ça, parce que quand j'interroge les auditeurs hein, qui nous écoutent, vous étiez pour le non, vous étiez, alors je pense plus parce que c'est plus d'auditeurs qui sont pour le non qui nous écoutent, mais quand vous causiez autour de vous, posez-vous simplement la question, les gens ils vous répondaient quoi? Moi, beaucoup de gens qui ont pourtant 5 doses de vaccin, etc., me répondaient « Non, moi, je vais voter non. »
Ah, il y a plein de... Tous les gens à qui je me suis adressé,
alors, on se retrouve dans un paradoxe où, empiriquement, on a des réponses. Et puis, d'un autre côté, on a un autre résultat. Et puis, qui, comme par hasard, se joue sur un poil de cul sur la sabonnette. Quand même étonnant.
Ouais.
Le mot de la fin, je vais le laisser à Michel Gaillé. Si ça ne te dérange pas, Pascal, pour une fois. D'habitude, je le laisse à toi. Mais là, je vais le laisser à Michel Caillé. Et puis encore, merci de nous avoir accueillis pour ce brunch.
Avec grand plaisir. C'était sympa d'être tous ensemble. Ça a un petit peu duré longtemps pour avoir le résultat. On a eu des hauts et des bas. Puis bon, finalement, on est quand même déçus. Il faut le dire, on est quand même déçus que le oui soit passé. Il est passé à trois fois rien. Espérons que ça va quand même permettre une certaine réflexion sous la coupole. Bon, je ne suis pas sûre. Hein.
Moi non plus, ouais.
Pardon. Il y a eu une très belle participation, ce qui me fait reprendre espoir en la capacité politique des Suisses. Et quand je parle politique, je ne parle pas de politique politicienne. Je pense que c'est ça aussi. C'est là aussi qu'il faut travailler. La politique des partis politiques, il faut arrêter avec ça. C'est absolument nuisible. Donc, on élit des gens qui font des lois pour eux et pas des lois pour le peuple et qui ne sont plus au service du peuple. Donc, je pense que ça serait... Voilà, toutes ces notions de base de la citoyenneté, elles sont oubliées. S'il y a eu ce sursaut de participation, on ne peut qu'en tirer une leçon positive. Pourvu que ça dure, j'ai envie de dire, pourvu que ça dure, c'est à nous d'essayer de continuer d'informer. Et puis j'aimerais encore une dernière fois remercier toutes les personnes qui se sont donné une peine immense pour cette campagne. Et puis je leur annonce déjà qu'il y aura la campagne pour le cash très bientôt. Donc gardez courage parce qu'il va falloir... remettre les choses en route très rapidement.
On va refaire une bannière, là.
Ouais, on en fera une différente, cette fois.
Oui.
Mais oui.
Mais ouais. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai été content de partager cet après-midi avec vous. Je crois qu'il y a eu une coupure juste avant du réseau. C'est pour ça que mon téléphone a sonné en arrière-plan. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver, si jamais, l'intégralité dans les podcasts de la radio, de cette interview avec Michel Caillé, présidente du MFR, et Pascal Borel, qui m'a tenu compagnie pour animer cet après-midi de votation helvétique. Merci à vous deux, et bonne fin d'après-midi, bonne fin de dimanche, et puis à une prochaine sur les ondes de Radio Électron Libre.
Et bien
merci beaucoup, Vincent. Et ça...